France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Écrivain, poète, critique musical et littéraire, homme de radio et de télévision, créateur avec Pierre Desgroppes et Pierre Dumayet de Lecture pour tous et aussi de l'émission Terre des Arts, Max-Paul Fouché était un homme occupé. Aussi était-il en 1965 un invité tout désigné pour dire ce que lui évoquait le mot « vacances » au micro de Harold Portnoy dans « Impromptu de vacances ». Max-Paul Fouché parlait de ses voyages, de l'Amérique du Sud, du métier de professeur qu'il avait détesté, de l'art, de la culture, de la vie et de sa maison de Vézelay, de son jardin où il aimait passer ses congés à travailler bien entendu. Impromptu de vacances, Max-Paul Fouché, avec les voix de Bernard Jousset, René Farabée et Michel Bouquet, lisant quelques-uns de ses textes.
France Culture présente Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Max-Paul Fouché. Assistante, Jacqueline Clancier.
Max-Paul Fouché, je vous propose un mot, vacances, et puis je vous demande tout de suite de réagir.
D'abord, il y a quelque chose qui me choque dans ce mot, c'est son appartenance à la famille de vacuité. Et cela, j'avoue que je ne me sens jamais vacant. Quand j'étais un enfant, j'étais parfois frappé et même horrifié par des panonceaux que l'on voyait en cette belle époque affichés devant les immeubles, à la grille des portes, appartement vacant. Et lorsque je lisais cela, cela me faisait peur. Que pouvait-il y avoir dans ces appartements vacants? J'imaginais des pièces vides qui donnaient dans des pièces vides qui succédaient à des pièces vides. Et je ne sais pas si vraiment la nature a horreur du vide, mais j'ai moi horreur du vide. Ces appartements me paraissaient semblables à ces successions de salles que l'on voit parfois dans les cauchemars. Et je m'imaginais avançant au milieu de murs qui ne bougeaient pas, qui ne disaient rien. Ou parfois j'imaginais des murs avec des traces sur eux, sur des tapisseries, les ronds ou les carrés ou les rectangles que dessinent les tableaux une fois qu'ils ont été enlevés. Il y a là, n'est-ce pas, des fantômes de tableaux, d'objets, d'armoires, de meubles. Et ce mot vacant faisait surgir tout cela devant moi et créait cette espèce, non pas de panique, mais d'angoisse. Et encore aujourd'hui, le mot vacances crée cela en moi. Et c'est peut-être pour cela que, en vérité, je ne prends jamais de vacances lorsque je suis hors de Paris. C'est pour continuer ce que je fais à Paris, mais hors de l'atmosphère de la capitale, c'est-à-dire sans le téléphone, sans la radio, sans les micros, sans les caméras, sans cette atmosphère contraignante, pesante de la ville. C'est la seule différence, mais autrement, je ne suis pas vacant. La vacuité me paraît un état, non pas que je le rejette. Si je pouvais être vide, peut-être qu'à ce moment-là, apparaîtrait dans ce vide je ne sais quoi. Et peut-être que j'ai la nostalgie du vide, mais j'en ai aussi un peu l'inquiétude et l'angoisse. Car il me semble que si je descends, moi, comme un poète doit le faire, et dans la mesure où je le suis, je le sens, on rencontre ce vide, d'une part, et en même temps cet envahissement du vide par des formes qui pullulent, n'est-ce pas, un peu de façon, disons, cancéreuse. comme une matière, enfin, qui se multiplie et que l'on ne peut pas arrêter. Et je me suis toujours demandé si nous n'étions pas pris entre ces deux formes terribles, ou bien le vide, la vacuité, la vacance, et d'autre part la pullulation des formes. Alors de temps à autre, nous nous rejetons vers le vide parce que les formes pullulantes, c'est un cancer, comme je le disais. Mais d'autre part, le vide est impossible à supporter. Oui, je me demande si ça n'est pas, d'ailleurs, le sort commun des hommes. D'une part, dès qu'ils descendent en eux-mêmes, et dans la mesure où ils descendent en eux-mêmes, bien sûr, ils se trouvent presque près de ces sources, n'est-ce pas, intérieures, où des formes naissent sans cesse en eux, et ces formes qui montent sont inquiétantes, n'est-ce pas ? D'où viennent-elles ? De quel obscur songe, non pas seulement d'eux-mêmes, mais un songe de l'humanité ? Et ils voudraient s'en débarrasser, les écarter, parce qu'elles sont trop nombreuses, parce qu'elles sont un peu, parfois monstrueuses. Mais s'ils rejettent complètement les formes qui naissent à l'intérieur d'eux-mêmes, alors que leur reste-t-il ? C'est le vide, c'est la vacance, c'est la vacuité. Et alors, entre le vide, c'est-à-dire l'absence de forme, et le trop de forme, est-ce que ce n'est pas là le lieu même de l'angoisse ?
Je crois du reste qu'il y a une espèce de crainte devant cette vacance. Je me demande jusqu'à quel point on n'est pas, non pas satisfait, le terme serait faux, mais on n'est pas plus à l'aise dans ce fourmillement d'événements, de...
Plus à l'aise, je ne sais pas.
On n'est pas en face de soi, en tous les cas. Et c'est beaucoup de ne pas être en face de soi.
Pour être franc, on oscille, enfin, pour ma part, j'oscille toujours entre le monastère et le bordel. Vous comprenez bien ce que je veux dire par là, enfin, entre la multiplicité de la maison close, n'est-ce pas ? Et d'autre part, le caractère unique, n'est-ce pas, du cloître. Je n'ai jamais pu être assez mystique pour me limiter au cloître, et j'ai toujours été peut-être un peu trop désireux d'unité pour me satisfaire du bordel. Et on est déchiré entre cela, ou le plusieurs, ou l'unique. J'avoue que j'envie ceux qui décident et qui disent « il me faut l'unité, c'est l'unité que j'aurai », et les voilà avec leurs sécateurs, et particulièrement les horribles sécateurs de la morale, n'est-ce pas, et de la morale bourgeoise, ignominieuse. Et ils coupent dans les massifs, et il faut que les ifs prennent des formes patriotiques, n'est-ce pas. On se trouve à ce moment-là devant le jardin à la française, qui est si peu français en fin de compte. Mais tout est émondé, tout est tracé, et l'on vous apprend que le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la ligne droite, ce qui est une imbécilité totale, car nous savons bien que le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la rêverie et la liberté, et que ni la rêverie ni la liberté ne vont directement d'un point à un autre, ce n'est pas vrai. Alors, cela, je le rejette, mais en même temps, comment n'aurais-je pas aussi ce désir de simplification, de voir devant moi des allées tracées de façon à me reposer ? On est pris, n'est-ce pas, entre les deux. Je crois, j'essaie d'être en ce moment le plus vrai, le plus sincère, et j'avoue qu'il y a des jours où j'aimerais tellement être dans la multiplicité totale et d'autres jours dans l'unité totale. Que faire ? Mais, voilà, il y a des hommes multiples et je me fonds dans la multiplicité des hommes autant que je puis le faire pour trouver une unité de l'homme. Après tout, la mer est unique, mais regardez-la déferler sur les plages. Elle est faite de 1000 vagues et puis elle se résout à quoi ? Ce bouillonnement unique de l'écume. Alors, je crois qu'il faut être très modeste et que, en fin de compte, ce qui compte, j'ose jouer sur les mots, n'est-ce pas, tant pis, c'est ce bouillonnement de l'écume, cette espèce de blancheur qui naît de la multiplicité des vagues contre le rocher unique.
En tous les cas, il semble que vous ne soyez pas dupe de cette absence de vacances qui, en définitive, sert à vivre plus facilement.
Je déteste la facilité. elle me paraît le contraire de la liberté. Et il n'y a qu'une chose que j'aime, c'est la liberté. Si je vais très au fond de moi-même, alors là, vraiment, je ne sens qu'un amour, la liberté. Si j'aime ma fille, qui a 5 ans, c'est parce qu'elle est un être de liberté. Après avoir tant lu, et tant lu d'auteurs qui parlent de la liberté, je ne crois plus qu'en un seul maître de liberté, l'enfant.
Est-ce que vous pouvez établir un parallèle entre certains pays que vous avez vus et certaines idées qui vous sont venues parce que vous étiez dans ces pays ?
Lorsque je suis dans un pays, ce qui m'étonne le plus, ce n'est pas ce pays, je ne crois pas, c'est de m'y trouver. Lorsque je me réveille, je ne sais où, dans un petit hôtel d'Istanbul ou bien dans une baraque de tôle en Afrique noire ou bien sous un campement de la Sierra Madre, n'est-ce pas, au Mexique. Ce qui m'étonne, ce n'est pas tellement l'Afrique noire, mais c'est ou le Mexique ou la Turquie, enfin peu importe, c'est pas cela. Je me dis, mais enfin, il y a quelque chose d'extraordinaire. Te voici homme de France, te voici homme de Normandie, te voici homme de ton pays, qui soudain se trouve là. Pourquoi ? Par quel destin ? Quelle est la chose qui t'a amené jusque-là ? Et vous entendez bien que ce n'est pas un retour vers moi-même, que ce n'est pas moi qui compte, mais c'est cet extraordinaire destin qui fait que un homme, à un moment donné, se trouve quelque part. Cette étrangeté-là, je n'ai pas fini d'en goûter la saveur. Et c'est très curieux comme les paysages, souvent les plus célèbres, m'inspirent peu. Moi, je ne suis pas un grand amateur de paysages illustrissimes. Je peux parfois être bouleversé par une rue très pauvre, par quelques maisons lamentables. Si j'aime tant l'Amérique latine, c'est parce que dans les faubourgs des villes, en dehors du centre qui est pavé ou asphalté, en dehors des buildings, il y a ces maisons à un étage et les gens qui, de l'intérieur, jettent leurs détritus, pendant le déjeuner en particulier, et l'on voit descendre au centre de la rue des ouroubous, n'est-ce pas, des vautours, des oiseaux de proie qui se nourrissent de cela et qui exercent un rôle de voirie, si vous voulez, de balayeur, en mangeant ce que les hommes rejettent. Il n'y a rien de véritablement pittoresque là, mais pourquoi donc suis-je pris, comme on dit, par cela ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire, mais c'est un fait que très souvent j'étais plus bouleversé, plus attaché par des choses sans visage que par des grands paysages ou je ne sais quels horizons célèbres.
Qui traverse les hauts plateaux du Pérou et de la Bolivie connaît la haute solitude. La puna, l'altiplano, se pétrifie entre les cordillères. Pierre. Des murs bas de cailloux entassés dessinent vaguement des propriétés où rien ne paraît être le propre de quiconque, sinon du froid, du soleil, couperet. L'homme, parfois d'un ébouli, se détache comme la pierre d'avalanche. Un condor fait songer dans l'immobilité du guet à la vitesse limite qu'atteignent les corps en chute dans le vide quand les forces s'équilibrent. Les dents bleues du ciel se crispent sur les neiges aux cimes de l'ouest. Panne géante, malgré le vent.
Paul Fouché, si vous pouviez aller où vous voulez,
oui.
Où prendriez-vous vos vacances?
C'est une question, alors là, je ne peux pas répondre. Si je réponds, je vais décider, n'est-ce pas? Je vais trancher dans le vif et je vais saigner un peu. Et j'ai peur aussi de... Enfin, je ne sais pas. Vraiment, je suis inquiet. Où prendre mes vacances? Je voudrais les prendre... au même moment, en plusieurs endroits différents. C'est impossible, je n'ai aucun droit d'ubiquité, bien sûr. Cependant, si j'essaye vraiment d'être tout à fait sincère, je crois que je prendrai ces vacances dans un petit pueblo, dans un petit village du Mexique que je connais bien, enfin, le Mexique que je connais bien, et dans un des pueblos du Mexique, dans un des villages. Ou bien, peut-être aussi dans un village de France, mais en tout cas, certainement pas dans une ville et certainement pas dans un lieu célèbre. J'ai parlé du Mexique, Dieu sait qu'il y a là-bas des lieux célèbres où les touristes arrivent, on leur a fait leur leçon, ils regardent, ils kodakographient, n'est-ce pas? Ils reviennent en France, kodakographier, vous avez compris, Kodak fait le reste, n'est-ce pas? On passe des diapositives au retour, on a été au Mexique ou ailleurs. Je trouve que ça, c'est tellement abominable. Remarquez que je prends des photos, je suis photographe aussi. Mais je trouve ça monstrueux parce qu'on n'essaye plus de vivre le paysage par le souvenir. Et... on essaye de le montrer aux autres. Or, ce qu'il ne faut pas faire, c'est montrer aux autres. Il ne faut jamais rien montrer. Il faut que les autres soient un peu éveillés par vous-même, enfin, par ce que vous avez vécu. Ou alors, à quoi sert la vie? Enfin, je pense que si la vie a une utilité, ce n'est pas de donner aux autres quelque chose de tout fait, qu'ils vont emporter sous leurs bras comme un paquet, qu'ils auront acheté à Monoprix. Non, c'est pas du tout cela, mais il faut essayer de provoquer chez les autres le souvenir et non pas de les encombrer avec ses propres souvenirs. Et pourtant, j'aime beaucoup de souvenirs. Non, ce qu'il faut, c'est essayer d'éveiller l'autre et que l'autre vous éveille. Si la vie n'est pas un réciproque éveil, c'est une abominable saloperie, n'est-ce pas? Autant être un homme de parti avec sa carte, comme il y a des filles en carte, n'est-ce pas? Comme il y a un gouvernement que l'on respecte, devant lequel on tire son chapeau, pour lequel on vote. Tout ça, c'est l'abomination totale de notre civilisation, et pas seulement de la nôtre, mais depuis longtemps, n'est-ce pas? Au fond, il n'y a qu'une valeur que je respecte, c'est en dehors de la liberté, mais elle ne fait qu'un avec la liberté. C'est la révolte, mais que voulez-vous? Aujourd'hui, on fait tout pour limer la révolte, pour l'épuiser, pour en faire je ne sais quelle valeur marchande. Il y a des écrivains qui font leur fortune sur la révolte, je ne citerai personne. Mais il n'y a pas d'écrivains révoltés, il y en a très peu, alors il faut tout de même s'entendre. C'est comme la notion de culture, on parle sans cesse de culture, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on apporte aux gens, là, sur leur table, comme des plats sortis d'une boîte de conserve, des connaissances que nous avons, et nous leur disons, voilà, regardez-nous, écoutez-nous, bon, vous êtes cultivés. C'est monstrueux, c'est un mensonge, c'est une duperie, c'est une forfaiture. C'est une tâche de l'esprit même. Ce qu'il faut, ce n'est pas donner une culture toute faite, c'est provoquer une culture. Et c'est cela le drame de la culture en ce moment, n'est-ce pas? C'est qu'on n'essaye pas de faire revivre une profonde culture populaire qui est la seule. Et je ne dis pas ça par démagogie. Et s'il y a des imbéciles qui pensent que c'est par démagogie, c'est qu'ils ne comprennent pas alors que je parle avec une profonde nostalgie des époques où la culture venait profondément du sol, venait du peuple, n'est-ce pas? Il y a toujours des gens qui vous accusent de démagogie dès lors qu'on ne pense pas comme eux. Eh bien, si ceux-là pensent que ce que je viens de dire est démagogique, tant pis pour eux, mais qu'ils se retournent devant eux-mêmes et qu'ils se fassent leur petit confessionnal personnel. Je crois que ce qui compte avant tout dans notre vie, c'est bien sûr de dire ce que l'on a vécu, beaucoup plus que ce qu'on a lu ou appris ou regardé dans les musées. En tout cas, ce qu'on a lu ou vu dans les musées ou appris ne doit venir qu'après, lorsque c'est, comment dirais-je, irrigué par la saveur des matins, des après-midi et des soirs. C'est très difficile, c'est souvent un échec, et alors on se contente d'être ce que souvent je suis, un narrateur de livres, un critique, pour employer une expression un peu noble. Et au fond, ça, c'est l'échec. Car si j'aimais parler de quelque chose, ce serait simplement une qualité de lumière d'un matin ou d'un soir. Mais voilà, c'est difficile, c'est trop difficile. En tout cas, c'est plus difficile que de parler d'un livre.
Pour détruire un jour d'été, le sol en vol d'un oiseau, vent froid au revers des plaines, les hameaux de sang caillés. Notre cœur est nostalgie, une terre à nos pas inconnus, regret de ne plus l'habiter, et nous n'y avons pas vécu. D'autres chemins jamais foulés, celui-ci nous semble à notre âge. Le regret, le désir mêlés, espoir et deuil ont le même âge. La montée d'une aile au soir souligne le jour qui tombe. Quelle braise encore empêche le feu d'accepter la cendre?
Lorsque vous êtes en vacances, quelles sont vos activités?
Eh bien, les activités tout à fait normales que j'ai, ou anormales pour la période de vacances, que j'ai à Paris. Quand je vais chez moi à Vézelay, je ne sais pas si j'ai le droit de dire chez moi d'ailleurs, parce que à Vézelay, on nous considère toujours, nous autres Parisiens, enfin nous qui ne sommes pas vraiment de Vézelay, comme de la terre rapportée. C'est ainsi qu'on nous appelle, n'est-ce pas? Mais enfin, disons que lorsque je vais à Vézelay, c'est un peu comme si je changeais de bureau, c'est-à-dire je passe de mon bureau de Paris au bureau de Vézelay, j'emporte des livres, j'emporte du papier pour écrire, j'emporte des disques, j'emporte que sais-je. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Mais, par exemple, l'été dernier, j'ai travaillé en vitesse de croisière de 9 à 10 heures par jour. Je travaillais pour un livre qui vient de paraître, mon livre sur la Nubie. Et le soir, cependant, j'arrêtais parce que, d'abord, j'étais fatigué, et surtout parce qu'il faisait très chaud et le petit jardin, le bout de jardin, mourait de soif. Moi aussi, d'ailleurs. Alors, il fallait bien arrêter à un moment donné. Il fallait donner à boire au jardin et à moi-même. Non, Marianne veut dire quelque chose. Que veux-tu dire?
Oui.
Viens le dire ici, Marianne. Ici.
Viens le dire. Alors, que faisait papa à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faisait?
Il arrosait.
Il arrosait. Eh bien, ça, c'est parfait. Il arrosait. Ma fille, qui a 5 ans, dit la vérité le plus souvent. Et... En effet, j'arrosais vers 7 heures du soir, qui est la bonne heure pour arroser. On branchait le tuyau et je donnais à boire aux fleurs, aux légumes, aux arbres, un peu comme ça, de façon anarchique, en essayant de faire une nappe humide sur la terre la plus égale possible, ce qui faisait fort enrager ma femme et ceux qui l'entouraient, parce qu'elle disait « Mais non, tu donnes trop d'eau à telle plante, pas assez à l'autre. » Moi, je suis pour, autant que possible, pour un communisme de l'arrosage. Alors, bien sûr, ça ne paraît pas
très
sérieux. Non, ce n'est pas une facilité. C'est difficile d'arroser régulièrement un bout de terre pour que chaque endroit, même, n'est-ce pas, les mauvaises herbes, comme on dit, aient de l'eau. Ah, mais pourquoi les mauvaises herbes? C'est très joli, les mauvaises herbes, vous savez. Moi, je ne suis pas uniquement pour la salade frisée et pour les carottes parfaites, n'est-ce pas? Non, alors voilà ce que je faisais. Et puis, une petite promenade avec Marianne, avec ma fille et sa mère, sur les remparts, au moment où le soir tombe, qui est un des moments que j'aime beaucoup, où les écureuils commencent à se hasarder parce que cette espèce... abominable. Marianne, ne fais pas de bruit avec ton livre. Vous entendez, elle tourne les pages. Ce moment où les écureuils sortent, descendent des des branches, n'est-ce pas? Alors, Marianne, justement, veut les voir, elle aimerait même les approcher. Mais en France, on est tellement méchant pour les animaux, on est tellement impossible, n'est-ce pas? Ce serait en Angleterre, par exemple. Les écureuils viendraient vers nous, comme je les ai vus venir plus d'une fois dans les parcs anglais. Et les oiseaux ne sont pas effarouchés par les hommes. Mais vous savez, la France est un pays qui a une méchanceté, une cruauté envers les bêtes, envers les hommes même, parfois. Dieu sait que j'aime mon pays. Mais cette cruauté française, c'est vraiment parfois insupportable. Ce serait tout un sujet, d'ailleurs, mais pas un sujet de vacances.
C'est l'ordre.
Oh ! L'ordre. L'ordre, vous savez bien ce que ça veut dire. C'est la justification des privilèges. Et ça, alors, vraiment, ne me parlez pas de cet ordre-là. Si j'ai à choisir entre l'ordre qui est justification des privilèges et le désordre et qui peut être la conséquence de la liberté et de l'égalité, dites alors que je choisis le désordre.
Nous avons entendu Marianne tout à l'heure. Plusieurs fois, au cours de cet entretien, le thème de l'enfance est revenu. À l'heure actuelle, vous faites signe à votre fille de se taire. J'aimerais que vous nous parliez de l'enfance.
Ah, qui est digne de parler de l'enfance? Je ne sais pas, c'est un tel désir. Et il est toujours difficile de parler de son désir. Ce que je sais, en tout cas, c'est que j'ai été un père très tard. C'est à 47 ans que j'ai été père. Et je me demandais ce que ce serait pour moi. Je ne le savais pas. Lorsque je suis allé déclarer ma fille à la mairie, je n'avais pas d'émotion particulière. Simplement, je me sentais un peu plus que ce que j'étais la veille, puisque je déclarais la naissance d'un être vivant. Et ça, c'était quand même très important, bien sûr. Mais au fond, je me demandais ce que serait pour moi l'expérience de la paternité. Après tout, je suis un peu, et même beaucoup, non pas seulement archéologue, mais ethnologue, et cela rejoignait pour moi bien des préoccupations. M'a demandé mon nom, bien sûr le nom de sa mère et le nom de l'enfant, et c'était une curieuse cérémonie un peu barbare. Je parlais à travers cette chose assez effrayante, des vitres, vous savez, dans lesquelles il y a des petits trous pour que la salive de ceux, les postillons de ceux qui parlent ne parviennent pas aux fonctionnaires qui sont derrière. C'était un peu kafkien, n'est-ce pas, tout ça. Et puis j'attendais. J'attendais quoi? Eh bien, rien, puisque je ne savais pas, mais j'attendais quelque chose. Et je ne me plains pas d'avoir attendu, et même d'avoir attendu 47 ans pour avoir un enfant. Avant, je n'en voulais pas. Ah, ça, je le dis nettement, j'étais un voyageur, j'étais un homme sur tous les terrains de ce monde, et non, il fallait que... J'avais d'autres enfants. J'avais mes étudiants, par exemple, en tant que professeur. J'avais les peuples chez lesquels j'étais en exploration. Bref, j'avais toujours l'impression d'être un peu père de quelque chose. Mais d'un enfant, ça c'est autre chose, voyez-vous. Et c'est une confession que je vous fais là. Presque, je me frappe presque la poitrine. Et c'est vrai parce que si c'était à refaire, eh bien j'en aurais une vingtaine. Avec plusieurs mères, parce qu'il faut que les enfants soient différents, n'est-ce pas? Ça, j'ai là-dessus des idées que je ne pourrais pas exprimer au micro, parce que... Non, Vous voyez, même Jean-Sébastien Bach, il a une vingtaine d'enfants, n'est-ce pas? Il a quand même eu deux femmes. Alors, on peut multiplier cela, puisque quand on n'est pas Jean-Sébastien Bach, n'est-ce pas, qu'on est simplement un poète quelconque. Alors, voilà, ce que l'enfance m'a apporté, c'est l'enfance. Ça paraît une tautologie, ça paraît une stupidité, mais non. Lorsque vous êtes persuadé que vous élevez votre enfant, c'est-à-dire que vous êtes un autonnier, que vous êtes à la barre, là, n'est-ce pas, pipe au bec, et voilà, le bateau familial avance à travers la tempête ou sur la bonasse, et vous faites une haute idée de vous-même, je suis le conducteur, je suis le pater familial, sans faire autre chose de ce genre. Eh bien non, tout ça, c'est vraiment, je crois, de l'illusion totale. Savez-vous qui est le père de famille? Dans ma famille, c'est l'enfant. Et lorsque je crois conduire ma fille au square, c'est elle qui me conduit au square. Lorsque je lui dis « je vais t'offrir une crème glacée », c'est elle qui m'offre une crème glacée puisque j'en mange une en même temps. À chaque instant, l'enfant ramène le père, et la mère bien entendu, à l'enfance. Et c'est cela le miracle. C'est la possibilité de revenir vers cette chose qui s'appelle l'enfance, une certaine forme d'innocence, peut-être, c'est vrai, mais oui, pourquoi pas, n'est-ce pas? Je n'aime au fond que l'innocence, même les criminels me paraissent innocents, il faudrait s'expliquer là-dessus. L'enfant me conduit toujours au square, je l'ai dit dans un texte de préface à un livre qui s'appelle « L'enfant et son père », parce que le titre m'a paru juste. Ce n'est pas le père et son enfant, c'est l'enfant et son père. J'ai volontairement retourné la proposition habituelle parce que j'ai toujours l'impression d'être pris par la main, conduit au square, conduit au balançoire, conduit à la pièce d'eau. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux parce que nous avons perdu cela. Nous avons perdu cette chose, enfin, qui ne se définit pas. Et que Nerval, par exemple, que Gérard de Nerval, avait si bien compris. Vous savez que c'est un homme qui un jour avait entendu une petite fille chanter une chanson. Il a retrouvé plus tard cette petite fille devenue jeune fille. Il l'a entendue chanter et son désespoir a été effrayant. Car elle ne chantait plus, dit Nerval, elle phrasait. Eh bien oui, c'est cela qu'il faut éviter et je ne l'évite peut-être pas toujours moi-même, peut-être que je phrase. Et quand je phrase, c'est pour mieux me faire comprendre. C'est peut-être ma seule excuse. En tout cas, ce que je voudrais, c'est le chant et non pas la phrase. Et l'enfant ne phrase pas. Il chante, même lorsqu'il crie, même lorsqu'il fait du bruit. Oh, je sais bien que je m'énerve souvent lorsque j'entends le bruit que fait ma fille. Mais quand je réfléchis bien, je suis à l'origine de la parole. Et là, justement, l'enfant m'a appris beaucoup. Il devrait apprendre beaucoup à un poète la formation du langage, oui. N'est-ce pas? Vous entendez ma fille qui crie, on l'appelle pour dîner. Elle répond, oui! On peut dire qu'elle est mal élevée, elle l'est. D'ailleurs, c'est vrai. Elle crie, oui! Parce qu'elle ne veut pas aller dîner, parce qu'elle ne veut pas aller manger son potage, parce que ça l'ennuie, parce qu'après tout, le dîner pour elle, même quand elle a faim, une cérémonie qui l'embarrasse, qui l'empoisonne. Eh bien, il y a une vérité, n'est-ce pas? Moi, je vais très souvent dîner chez des amis en ville, n'est-ce pas? Je dis toujours « Oui !» Mais je ne le dis pas comme ça. Je dis « Mais comment donc, cher ami? J'irai dîner chez vous, mais avec quel plaisir ?» Et c'est vrai que souvent, je vais dîner chez des amis avec plaisir. Ça, cela est vrai. Mais combien de fois je vais dîner ailleurs en disant « Oh là là, mon Dieu, comme je serais bien là à lire mon livre, à regarder un livre, j'allais dire la télévision, non, ça c'est trop rare qu'elle soit bonne, vous comprenez, c'est exceptionnel, alors vraiment non. En tout cas, écouter de la musique, et je vais dîner et je ne réponds pas « Oui !» comme ma fille, je prends des formes. À partir du moment où on prend des formes, on commence à être un drôle de menteur. L'enfant vous apprend, non pas à ne pas mentir, car les enfants mentent, mais le plus souvent, n'est-ce pas, lorsqu'on les heurte, alors ils disent la vérité, c'est une source de vérité, c'est une source de non-phrase, et c'est pour ça que j'aime, au fond, terriblement ma fille, bien sûr, mais l'enfance.
Marianne est partie maintenant.
Oui, Marianne est partie.
On l'a peut-être entendue, du reste.
Oui, je pense qu'on a dû l'entendre parce qu'elle ne passe pas inaperçue.
Oui. ce qui m'a frappé, je ne sais pas ce que vous pensez de cela, mais pendant que vous parliez, elle était assise sur un divan qui se trouve en face de vous. Elle tournait des pages. Elle a du reste tourné des
pages. Elle adore les livres, oui.
Oui, mais elle écoutait en même temps. Alors là, je me pose un problème.
Oui.
Et je voudrais vous le poser. C'est les relations adultes. Enfant.
Alors là, je ne peux pas vous répondre, parce que si je répondais, je ferais partie de ces gens qui prétendent connaître l'enfance. C'est-à-dire des gens qui, le plus souvent, marchent sur les pieds et les mains et la langue et l'esprit des enfants. Je vais faire un aveu scandaleux, mais les pédiatres me font une peur horrible. Oh, il en faut, naturellement. Il y a des maladies physiques, par exemple, et même psychologiques de l'enfance qu'il faut soigner. Mais je suis toujours inquiet parce que l'enfance est une chose tellement respectable, n'est-ce pas ? Tellement mystérieuse aussi. J'ai été professeur pendant très longtemps. J'avais l'impression d'être un assassin d'enfants, ou de jeunes gens, si vous voulez. Et pourtant, croyez-moi, j'essayais d'être le plus proche d'eux, le plus compréhensif, le plus acceptant. Et cependant, je revenais chez moi, je disais, combien as-tu étranglé de pensées spontanées, de liberté. J'étais vraiment très malheureux. Je suis, de ce point de vue, content de n'être plus professeur, parce que vraiment, c'était une question au sens torture. Pour moi, je me disais, mais tu leur apprends même ce que tu aimes, est-ce que tu as le droit de le faire ? Enfin, je le faisais parce que je n'ai pas l'impression d'aimer ce qu'il y a de plus bas dans le monde. Mais après tout, n'est-ce pas, il faut que les êtres soient ce qu'ils sont. Être ce que nous sommes, mon Dieu, si nous y arrivions. ce serait merveilleux. Est-ce que je suis ce que je suis ? Est-ce que vous êtes ce que vous êtes ?
Nous connaîtrons un jour, sur de plus amples versants, ce que signifie dans l'aube la fumée des villages lorsque les chiens cessent d'inquiéter le gibier d'ombre et de paver la nuit d'abois comme un guet de pierre. Nous lirons la fumée des fermes dans le jour étalé comme l'écriture des hommes sur les pages des livres. Nous apprendrons alors de singulières nouvelles, anciennes comme le feu, sur la transparence des terres. L'aboi des chiens aux cours fermières de la nuit sera clair pour nous, ainsi qu'un jeu de marelles où les enfants poussent entre les signes de la craie vers un ciel dessiné les éclats de leur rire. Étonnés, nous éveillerons d'un plus long sommeil dans la surprise de voir notre rêve devenu tuile et pierre. La fumée des fermes coulera aux racines de nos veines. Nous serons ce secret que nous voulions savoir. Secret de jour et de nuit, de récolte et de fenaison, secret qui soudain se révèle dans les branches écartées, l'évidence se fermait sur soi comme étable l'hiver. C'était sous ces abois, ces villages, ces pentes et ces toits. Nous étions la marelle et la pierre et l'enfant, le rire et les courses, le livre et la courbe et la craie, la tuile, le guet, la rivière, les sautes du vent, aux transparentes carènes, ce maigre brûlis d'herbe. Qu'un peuplier sur l'espace, un doigt sur les lèvres, à jamais taise le secret dans le rouissage du jour. Perdons-le dans la neige, le sable, la verdeur. Vivons comme si nous ne savions rien des fumures du labour. Sur le tour des saisons, monte la poterie des collines. Des taillis de la nuit, les chiens ont levé le jour. Au tableau de l'école, un enfant dessine le ciel. Roule une pierre. Un oiseau crie. nous avons oublié.
À propos de l'enfance, vous avez parlé d'innocence. Il y a sûrement un autre aspect de cette idée d'innocence. Je pense à l'idée de péché.
Ah, oui. Il s'agit de s'entendre. L'idée de péché est une idée normale lorsque l'individu sent personnellement qu'il a fait quelque chose contre la société ou contre un être qui est répréhensible. Mais à ce moment-là, on ne peut que le féliciter. C'est sa prise de conscience, son autocritique, c'est véritablement sa réflexion sur un acte qu'il a commis et qu'il sent qu'il n'aurait pas dû le commettre. Je crois que là, c'est très noble. Mais il y a une autre idée de péché. C'est celle que l'on inflige à l'homme, pourrait-on dire, constamment dans la société policière. Et quand je dis ça, je pense à cette notion du péché originel qui, pour moi, est un monstre. Pourquoi me sentirais-je coupable d'un acte commis par d'autres? Si nos ancêtres ont mangé la pomme, je ne m'en sens pas responsable. Et d'ailleurs, pourquoi ne l'aurait-il pas mangé? C'est un fruit délectable. Et s'il a été créé, c'est pour être mangé. Je crois d'ailleurs que le fait d'avoir consommé le fruit défendu ne diminuait pas l'humanité. Et sur ce point, je penserais un peu comme infiniment plus grand que moi, comme Hegel. On m'excusera de citer Hegel dans une conversation aussi détendue. Mais enfin, lorsqu'il dit que la connaissance du bien et du mal était réservée aux démiurges, à Dieu seul, et que l'homme ne connaissait après tout que le bien dans le paradis originel, mais que lorsqu'il a mangé la pomme, c'est lorsqu'il a commis le péché, entendons-nous, il a connu le mal. Du même coup, il a connu et le bien et le mal, l'homme. De ce fait, il s'est divinisé. Ah, cela me paraît parfaitement logique, certainement blasphématoire aux oreilles de beaucoup, mais très logique. Commettant le péché, on assume une connaissance parfaite et du bien et du mal. Et cette connaissance du péché est une sorte, si vous voulez, de montée de l'homme vers la science divine. Je vois bien tout ce que l'on peut répondre à cela, mais cette démonstration de Hegel m'a toujours paru, sur un plan anecdotique, vraiment très importante. Nous devons connaître les deux. Cependant, accepter qu'on nous mette sur les épaules, qu'on mette sur les épaules du nourrisson qui vient de naître, un péché qu'il n'a pas commis, me paraît véritablement l'une des stupidités, des monstruosités que je ne peux pas supporter.
Il faut dire que le nourrisson fait partie d'un système.
Il fait partie d'un système théologique monstrueux. Et je comprends alors tellement bien Rimbaud. Lorsqu'il s'écrit « Je ne suis pas coupable », parce qu'il ne supportait pas cette espèce de poids du péché originel que l'on fait peser sur les hommes, sur les adolescents. Il y avait une révolte profonde, une révolte ontologique même, dirais-je, lorsqu'on voit certains écrivains comme Claudel prendre Rimbaud contre eux et dire que, bon, c'est leur homme, soit je veux bien, mais c'est un peu comme s'ils prenaient contre eux la tunique de Nessus ou un renard qui leur dévora le foie, n'est-ce pas? Il n'empêche que Rimbaud est là, qui est l'homme vraiment que personne ne peut mettre dans son parc, dans son étable, à l'intérieur de ses barrières. Et ce qu'il y a de plus important, justement, chez un poète comme Rimbaud, chez Rimbaud peut-être lui seul, c'est ce rejet de l'univers de la faute. Il n'a jamais eu le sentiment de la faute, et on essaie de nous mentir lorsqu'on nous dit qu'il est parti en Éthiopie, qu'il s'est vidé comme pour se punir. Allons, voyons, sincèrement, enfin, sur quoi cela repose? Non. D'abord, on n'a pas le droit de faire parler les morts. Et ça, c'est véritablement une spécialité de l'homme contemporain que de faire parler ou voter les morts. On sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui feraient voter Rimbaud pour je ne sais quel parti catholique. Eh bien, ouf, c'est pas possible, ou je ne sais quel parti communiste aussi bien. C'est monstrueux, n'est-ce pas, qu'on les laisse en paix, qu'on les laisse dans leur vérité. En tout cas, il y a chez Rimbaud ce fait, c'est qu'il est véritablement le seul qui est en dehors du monde de la culpabilité. Peut-être Mallarmé aussi. Mais, voyez Baudelaire, il est à l'intérieur du monde du péché, parce qu'à chaque instant, il sent en lui, il le dit d'ailleurs, Baudelaire, admirablement. Et c'est pourquoi il est peut-être plus fraternel que Rimbaud. J'entends à chaque instant une double postulation, celle de l'enfer et celle du ciel. Ça, c'est parler, disons, en homme qui appartient à l'univers de la faute, n'est-ce pas, le rachat et la punition. Rimbaud parle. C'est lourd sur l'Occident, cette notion de péché, de faute, de culpabilité. Savez-vous comment on fait les coupables? On les fait avec cette notion de culpabilité. Rien à faire. Si l'on dit aux gens qu'ils sont coupables, pourquoi ne seraient-ils pas coupables vraiment?
Voici ma souffrance, alors que l'avion longeant le rail du Nil me ramène en Europe. J'ai vu, le mot est exact, l'innocence. Et je remonte à chaque tour d'hélice vers la terre des culpabilités, vers les états, les églises, les édifices, où depuis des siècles l'homme juge l'homme, fait peser sur lui les polices temporelles et spirituelles, toutes les formes de la surveillance. Je remonte vers l'empire du verdict, où s'élève trop rarement la protestation « je ne suis pas coupable ». Le solitaire cri d'un poète parmi les chasses de plomb, vite étouffé par les tonnerres de la menace, par les psaumes des grands inquisiteurs. Ces formes de la surveillance sont plus prolifères, plus accablantes au demeurant que celles d'une forêt qui m'ôtait par son épaisseur le souffle. Elles sont notre forêt, une boyauterie, un intestin plus monstrueux. Je sais ce qui m'attend au retour, des visages marqués d'enquête, des regards policiers, les sbires de Dieu, les sbires de la société, la générale spiritude. Je serai dans quelques heures parmi les millions d'êtres qui s'attachent l'un à l'autre le boulet de la culpabilité, s'instaurent, jugent, composent leur tribunal répressif, ingurgitent avec la première goutte de lait maternel la certitude qu'ils sont fautifs, chus, tombés au plus bas de toute éternité. J'entends déjà, plus fort que le bruit des pales, le coassement de ceux qui se déclarent fautifs dans leur bénitier palustre autour de leur roi Soliveau. Ils sont convenus de leur crime. Comment dès lors échapperaient-ils au crime? Comment ne poursuivraient-ils pas dans le crime? On ne voit pas ce qu'ils auraient à espérer, exception faite pour cela de l'intervention d'une grâce arbitraire. Le tribunal n'empêche pas le délit, non, il le crée, il l'enfante, et nous sommes assignés à comparaître, et nous assignons.
Comprenez, on entre dans le domaine des valeurs établies, ou plutôt dans le domaine des valeurs rétablies sans cesse par l'absence d'aventure. On n'a jamais voulu jouer, miser sur l'innocence humaine, on a toujours misé sur la culpabilité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, il y a cet ordre entre guillemets, que vous savez, cet ordre qui est ordre. Et après tout, les trois premières lettres de ordre, c'est les trois premières lettres de ordure, il faut bien le dire. On s'avance pesamment dans un terrain balisé, n'est-ce pas, un peu comme les avions qui s'en vont sur des pistes. Nous ne sommes plus des voiliers qui partaient en dehors de la darse, en dehors du port, au gré du vent, n'est-ce pas, c'est fini. Maintenant, nous sommes canalisés, comme les rivières sont canalisées, même les égouts sont canalisés, tout est canalisé. C'est la grande canalisation, et quand on canalise, on canalise. On fait des canaux, on fait des canailles.
Tout cela est justement bien organisé.
Mais bien sûr, nous sommes devenus des maîtres d'organisation. Moi-même, je suis très bien organisé, même dans ma révolte.
Où situez-vous l'espoir ?
Il faut donner à chaque être la possibilité, nous le disions tout à l'heure, d'être lui-même et tout simplement, ou plus difficilement encore, d'être. Être, je ne pourrais pas définir comme cela au pied levé ce que cela signifie, mais être nous est tout de même révélé à certains moments de notre vie quand nous sentons que nous sommes accordés à quoi ? À l'air, à la qualité de la lumière, à la rivière, aux arbres, aux hommes que nous croisons. Être, ce qui est plus important que tout, c'est ce grand sentiment que nous avons à certains moments, très rare hélas, et c'est la faute de la fausse société qui nous est imposée, le sentiment que nous avons d'être profondément nous-mêmes, avec nos qualités et nos défauts, avec nos forces et nos faiblesses, et cependant de ne pas être rejeté de l'ensemble de la communauté, de l'ensemble des hommes. À ce moment-là, nous avons le sentiment que nous sommes sans tâche, que nous sommes sans faute, que nous sommes sans péché et que nous sommes libres. Car si vous me demandiez au fond ce à quoi je sacrifierais tout, c'est à la liberté, même si ces excès nous entraînent vers des dangers, vers des périls. Il y a pour moi une couleur qui est celle de la liberté, c'est le rouge. Parce que pour moi, elle est la couleur de toutes les insurrections, de toutes les jacqueries, de toutes les communes. Et souvent, je me suis demandé, quelle est la chose que je souhaiterais pour ma mort? Ah! Eh bien, j'espère qu'autour de moi, on sera après tout assez fidèle à moi pour m'être sûr, si je meurs évidemment ici, si je meurs en avion, si je meurs en bateau, c'est autre chose. Mais enfin, si je meurs ici, on mettra simplement sur la bière un drap. On va dire que je suis communiste, que je suis révolutionnaire, mais voyons, soyons sérieux. Le rouge est une couleur extraordinaire. Savez-vous même qu'à l'intérieur de l'Église chrétienne, le rouge est la couleur du Christ? Oui, dans la symbolique des couleurs du Moyen-Âge, par exemple, le diable n'était pas rouge, il était vert. Car le vert dégage une sorte, surtout le vert plombé et sombre, dégage une angoisse. De même, on donnait à la Vierge la couleur bleue parce que c'est une couleur apaisante, maternelle. Le jaune était une sorte de couleur amicale. Le violet qui attriste était la couleur des martyrs, etc. Et l'excitation de l'esprit, c'était le rouge. Et donc, de ce fait, le Christ était rouge ou revêtu d'étoffe rouge. Et Dieu sait que je ne suis pas le Christ, on s'en fout. Non, mais vous comprenez, c'est l'excitation de l'esprit. Si l'humanité avance, c'est par le rouge qui l'excite, n'est-ce pas, qui provoque tout. Et puis, enfin, quand je vois du rouge, je pense toujours au sang répandu. Or, il se trouve que le sang répandu n'est pas celui des maîtres, n'est pas celui des puissants, n'est pas celui des possédants. Le rouge, c'est le sang du peuple.
Rameaux d'amandier brisés la nuit par des maraudeurs dans les jardins fruitiers. Toute fleur tombée au pied du vase, pétale à pétale, comme les hommes de la liberté devant le mur. Que vos amandes volées soient balles à vos voleurs. Que la colère soit votre fruit. La colère, la seule colère. Veines vidées, branches assassinées, souvenez-vous de Dunsinem. Avancez, dressez-vous en forêt. Désormais, vous êtes les signes de notre vie. À notre oubli se jugera le parjure, à notre mémoire notre dignité, à notre fidélité la fierté. Fierté malgré rapine quand je pense à toi, Pablo, à toi, Sanchez, à toi, Luis, à toi qui jouais du clairon dans les coblas du dimanche, à toi qui étais titsulari dans les villages du Pays Basque, à toi qui chantais mal le cante hondo, mais su mourir pour un chant juste. À toi, mon camarade Fénolar, qui fut mousse sur les balancelles et dort maintenant sous la neige des Asturies. Fénolar avec qui j'ai trinqué, j'ai bu l'anisette sur le zinc et partagé les filles du mauvais quartier. Sardane des hommes libres, floraison des amandiers, qui croit vous interrompre? Vous reprenez sur la plage. Vous renaissez dans les vergers. Les filles lèvent les bras au soleil. Les écorces s'emplissent de lait dur. Vous mûrissez, fleurs tuées, des chants plus hauts, des gestes plus forts, une légende neuve. Pas une larme. La colère. La colère, celle qui a beau visage.
C'était Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Max-Paul Fouchet. Texte lu par Michel Bouquet, René Farabet et Bernard Jousset. Assistante Jacqueline Clancier. Collaboration technique Yann Parentoen. Cette émission a été diffusée la première fois le 19 juillet 1965 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.